Donc, on est dans la troisième étude sur le stress. J'ai à cœur de partager avec vous cette série d'études qui est encore longue. Alors, je ne sais pas si on ira jusqu'au bout, mais on a déjà vu pas mal de choses. Est-ce que quelqu'un veut me partager quelque chose dont il se souvient de ce qu'on a vu sur les regards paniqués là? A pas peur, a pas peur. Il n'y a pas une note après écrite en rouge sur le bulletin. Un truc dont vous vous souvenez qu'on a vu sur la gestion du stress?
Rappeler la parole au début, la vérité.
Se rappeler de la vérité. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu la dernière fois en particulier, que le stress vient surtout de notre incrédulité et du fait qu'on doute de ce que la Bible dit au sujet de Dieu. D'autres choses?
Que Dieu ne nous délaisse pas.
Dieu ne nous délaisse jamais. Ouais. Est-ce qu'il y a des vérités dont vous vous souvenez qu'on avait vu la dernière fois ou la fois d'avant?
Le stress, il est issu de nos pensées qui sont une pollution venant du monde.
Oui. Le stress vient d'une pollution dans nos pensées, des bruits divers, notre propre cœur, plus le monde, les circonstances, qui font tellement de bruit qu'on n'arrive plus à entendre la voix de la vérité, la voix de Dieu. On avait vu la première réunion, Matthieu 11, versets 28 à 30, vous vous souvenez, où Jésus dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et on l'avait pris à l'envers, ce verset. Refusez de venir à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous refuserai le repos.
Juste 2 secondes.
Oui.
En fait, ça fait quelques jours pour justement gérer mon stress. Je prends ce verset et je dis, prenez mon joug. En fait, le bœuf, on ne lui demande pas s'il veut ou pas prendre le joug et lequel il va prendre. Mais là, il dit, prenez mon joug. En fait, c'est une invitation et une demande de notre part. Et en fait, je me suis dit que si à midi ou à 15 heures, je suis stressé, c'est que j'ai oublié de prendre mon joug le matin.
Oui, ou que je suis passé sous le joug d'un autre, en cours de
Et
route.
dans ce cas-là, je me suis passé sur le joug de mes côtes et d'un autre, et je ne suis pas dépendant
Oui,
de Dieu.
absolument.
C'est ma réflexion depuis quelques jours.
Ouais, ben c'est une bonne réflexion. La dernière fois, on avait vu aussi que ne pas croire ce que la Bible dit au sujet de Dieu, finalement, ça revient à vivre dans un monde qui n'existe pas. Parce que si je crois que Dieu n'est pas toujours bon, alors que la Bible nous dit qu'il est toujours bon, ben je vis dans un monde qui n'existe pas, parce que le monde que Dieu a créé, c'est un monde où Dieu est toujours bon. Alors, on a parfois du mal à le réconcilier avec notre expérience. Et pourtant, c'est ce que la Bible nous présente comme étant la vérité. On avait vu qu'il allait toujours satisfaire nos besoins, toujours pardonner notre péché, toujours être en train de préparer quelque chose de bien dans notre vie, qu'il nous aimerait toujours personnellement, qu'il va aussi toujours nous accorder la grâce dont on a besoin. Salut. On avait vu aussi que Dieu est toujours grand. Toujours, ce qui implique qu'il contrôle toute chose, qu'il est toujours présent auprès de nous et qu'il est toujours le même, toujours digne de confiance et toujours sage. Donc, on est appelé à vivre dans le monde réel et ce monde réel, tel que la Bible le décrit, c'est un monde où Dieu est toujours bon et Dieu est toujours grand. Aujourd'hui, dans l'étude qu'on va faire, je voudrais qu'on commence à comprendre quelle est la solution. Alors, je veux dire, on a déjà vu ça, puisque les solutions, bah, c'est regarder qui est Dieu. Alors oui, ça, c'est la solution dite en 3 mots, mais vous vous rendez compte. Est-ce qu'au cours du dernier mois, vous avez été stressé?
Oh, oui,
Ouais,
bah
hein?
oui, non, oui. Il y a 10 minutes.
Ouais, il y a 10 minutes, on parle de ça. Je trouve pas de place sur le
Ouais,
parking.
voilà.
Et puis ce
C'est
matin, au petit
grand.
déjeuner, votre tartine, elle est tombée dans le bol de.
Encore.
Mais, donc vous voyez que la solution n'est pas si simple que ça. En réalité, il ne suffit pas de savoir des choses. Il y a plus que savoir des choses, il y a mettre en pratique un certain nombre de choses. Et il y a aussi comprendre comment on fonctionne. Parce que comprendre comment nous fonctionnons, c'est une grande partie de la solution. Et On va regarder d'abord dans 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. Est-ce que quelqu'un voudrait gentiment lire ces trois versets, s'il vous plaît?
Oui, du coup, je vais dire.
Oui.
Et pourquoi nous ne perdons pas courage? Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen.
Merci. Donc, il est question de quelqu'un, là, l'apôtre Paul en l'occurrence, qui est face à des afflictions. Il voit aussi son corps qui se détruit, mais il a les yeux fixés sur autre chose que son corps. Bien sûr, il le voit, son corps. Et on peut difficilement faire autrement que tenir compte de notre corps qui est soumis au péché, donc qui endure les effets du péché, de la chute. Ça, c'est une expérience qui est universelle, universellement injuste aussi, parce qu'on n'est pas égaux, hein. Nos corps ne sont pas tous les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont bah, subir des maladies, des handicaps différents. Mais nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux invisibles. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir la vision du monde tel que Dieu l'a, la perspective que Dieu a, et penser aux choses éternelles. Donc, j'aimerais qu'on se dépeigne ce matin pour aider à comprendre la solution, nos corps comme une sorte de table. Alors, si vous regardez cette table, elle est renforcée par du métal en dessous. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a les pieds en métallique, mais il y a aussi toute une armature en métal en dessous. S'il n'y avait pas cette armature en métal, et que cette table repose simplement sur quatre pieds, on pourrait s'en servir. Maintenant, est-ce qu'on pourrait la charger? Beaucoup.
Non.
On pourrait la charger un peu. On pourrait exercer sur cette table un peu de pression. Nos corps sont comme cette table. Nos corps naturels sont comme cette table sans l'armature. On va éprouver dans la vie un certain nombre de pressions dues à tout un tas de choses. La pression du travail, la pression de la vie de famille, la pression de la maladie, la pression de ce qui se passe à l'église, de bien ou parfois bah, de moins bien malheureusement, tout un tas de choses. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va exercer un poids. Si vous chargez trop la table, qu'est-ce qui va se passer?
Attendez.
Ben, avant de s'effondrer, qu'est-ce qu'elle va faire?
Elle va plier
Elle va
d'abord.
plier. Et ça, vous le voyez sur une bibliothèque dont les rayons sont trop chargés, vous voyez que ça ploie sous le poids. Nos corps vont faire exactement la même chose. On va éprouver les uns les autres divers effets du stress sur nos corps. Et ça, c'est important de le comprendre parce que nos corps peuvent nous indiquer, hey, attention là, tu vis dans le stress, tu en ressens les effets, faut que tu fasses quelque chose. Alors, si on arrive jusque-là, c'est qu'on est allé trop loin dans le stress. On aurait dû prendre la gestion du stress bien avant, remonter à la source bien avant. Néanmoins, ça peut être un indicateur comme un signal d'alarme, un petit voyant qui s'allume. Si on vit dans une angoisse ou dans un stress permanent, qu'est-ce qui va se passer? Des tensions musculaires, des maux de tête, l'insomnie, fatigue, l'appétit qui va, dans certains cas, augmenter. Pour se réconforter, on va manger beaucoup. Ou au contraire, quand on est vraiment trop stressé, on va rien pouvoir avaler. Ça peut aller jusqu'à des atteintes cardiaques, des palpitations, voire même des choses bien plus graves, de la tension qui peut mener même à un arrêt cardiaque. Des problèmes digestifs. Qui n'a jamais eu mal au ventre avant un examen? Qui ne s'est jamais retrouvé à devoir aller aux toilettes en urgence parce qu'il y a un coup de stress. Vous avez déjà entendu cette expression se mettre la rate au courbouillon. La rate, c'est un organe de notre corps. Quand on dit quelqu'un qui se met la rate au courbouillon, ça veut dire que clairement, il se fait cuire un de ses organes, quoi. Il est tellement dans le stress qu'il va se faire cuire un de ses organes. C'est hibou. Voilà. Donc, on voit notre corps subit des effets de notre stress. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les maladies sont dues au stress. Hein? Il y a des maladies. Oui, entre. Salut.
Bonjour, désolé du
Mais,
retard.
pas de souci, viens t'installer.
Une petite problème, ça sera bien.
Il faut en tenir compte. Alors, si je ne veux pas que ma table ploie, plie et finalement casse, dans les cas les plus graves, sous la pression, qu'est-ce que je vais faire? Première solution, je vais enlever du poids. Chose. Des fois où c'est possible d'enlever du poids. Ne pas me charger de ce qui n'est pas de ma responsabilité. Déléguer un certain nombre de choses. Mais il y a des fois où Dieu ordonne des circonstances, simplement pas les éloigner, ces circonstances. Et pourtant, elles vont générer de la pression et du poids, sont permises par Dieu. Admettons que notre pays soit en guerre. Est-ce que ça ne va pas générer de la pression? Si. Des pressions de diverses sortes, des pressions économiques, des pressions affectives, la crainte pour notre famille, des pressions pour notre propre sécurité, simplement, du stress de manière générale. Est-ce qu'on peut enlever cette pression-là? Les circonstances? Est-ce qu'on peut simplement enlever le poids? Non. Quelle est la solution du coup pour que ça ne plie pas?
On la renforce.
On va la renforcer. Exactement. Et c'est ce qui est fait avec cette table. Vous avez toute une armature métallique, un cadre métallique autour, qui est destiné à quoi? Bah, permettre à la table de supporter davantage de poids. Comment est-ce qu'on fait ça, nous? Si on transcrit ça dans notre quotidien. On a parlé d'une table, mais comment est-ce que je fais pour être renforcé?
Oui, ça va pas mal.
En méditant la parole,
En appliquant ce qu'il y a dedans.
en appliquant ce qu'il y a dedans. Et puis, ça, ce sont deux excellentes remarques, on va les développer dans un instant. Est-ce que vous voyez d'autres manières de se renforcer?
En se déchargeant sur le Seigneur.
En se déchargeant sur le Seigneur, ce qui fait partie de méditer la parole et de la mettre en pratique, parce que la Bible nous le dit de le faire. Comment est-ce que vous prenez soin de la table, c'est-à-dire votre corps?
L'entretenir,
Il faut l'entretenir, ce corps. Et de quelle manière vous allez l'entretenir? Pour qu'il puisse être renforcé.
le sport, le sommeil, une bonne douche.
Mais exactement. Alors, ça peut paraître très simple, mais en réalité, oui, tu allais dire.
Bah, si c'est ça veut dire que c'est de soumettre au stress, alors, du coup. Parce que le sport, c'est se mettre son corps au stress.
Il y a stress et stress. Oui. Si tu veux, c'est entretenir le corps. Le sport n'est pas forcément un stress. C'est un entretien. Un exercice physique régulier.
Oui, mais en
C'est
fait,
un stress.
c'est un stress qui permet de régler tout le stress. En fait, c'est un Oui.
stress
Cognitif.
décidé pour que tu puisses gérer le stress qui n'est pas décidé. Ouais.
C'est de cette manière-là, si je prends une autre image, c'est des barres métalliques qu'on met dans le béton pour l'armée.
D'accord. Donc renforcement du coup.
C'est un renforcement.
C'est sport.
Et que ce soit le sport, que ce soit
La
une
douche,
bonne gestion du sommeil,
l'hygiène.
une bonne hygiène au sens propre comme au sens figuré, hein, il y a des choses que nous devons faire parce que nous sommes les intendants de notre corps. On a tendance à soit aller dans un extrême, soit aller dans un autre, un petit peu dans notre culture, soit le corps est tout et il faut en prendre soin. Je me souviens d'avoir vu le titre d'un reportage que je n'ai pas regardé, mais qui disait tous musclés, point d'interrogation, pour montrer l'emprise que peut avoir la nécessité aux yeux du monde d'avoir un corps musclé. Bon, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein. Si je prenais un peu plus soin de mon corps, j'aurais certainement une silhouette un peu moins empâtée. Ça, c'est évident. Mais voyez, pour gérer le stress, Dieu nous a fait corps et esprit, âme. Donc on a à gérer les deux et avoir une bonne hygiène de vie, du sommeil suffisant, de la nourriture en quantité, j'allais dire suffisante, mais il n'y a pas que suffisante. Adéquate, oui. C'est pas il faut pas que ce soit excessif, il faut pas que ce soit insuffisant. Avoir des temps de repos et même de détente sont des choses qui sont importantes pour une bonne gestion du stress. Aller marcher un petit peu. Plusieurs fois, il y a une sœur de l'église qui m'a dit, mais Baptiste, va marcher une demi-heure. Va marcher, ça va te faire du bien. Et elle a tellement raison. Tellement raison qu'après avoir marché une demi-heure, même une demi-heure de marche rapide, là où on arrive, on rentre, on est fatigué physiquement, mais intérieurement, on va bien mieux. Et il y a cet aspect de l'esprit discipliné. Donc il faut qu'on discipline nos corps et qu'on discipline notre esprit. C'est ça qui va être l'armature qui va renforcer notre être face au stress. Ça fait partie des choses qui vont nous aider à tenir face au stress. Ça va nous aider à avoir une certaine endurance. Mais vous remarquerez que cette table avec son armature métallique, c'est pas parce qu'elle a l'armature métallique qu'elle va tout supporter. Si je lui mets une tonne dessus, pas sûr qu'elle tienne. Si j'en mets deux, c'est sûr qu'elle tient pas. Et ça nous montre, par cette illustration, je veux nous montrer que Dieu ne nous a pas conçus pour résister seul à toutes les pressions. Il nous donne une certaine responsabilité qui est de nous entretenir autant physiquement que spirituellement. Mais même avec le meilleur entraînement, la meilleure discipline physique et ou spirituelle, nous ne sommes toujours pas aptes à gérer la pression sans lui, en réalité. Donc cet entraînement, ce renforcement sont là pour nous accorder de l'endurance, pour être en bonne santé, pour honorer le Seigneur, ce qui est très important. Mais même si on atteint le niveau le plus élevé de discipline et d'endurance, on n'est toujours pas fait pour rester sans le Seigneur. On va regarder quelques passages ensemble. Est-ce que quelqu'un voudrait lire Matthieu chapitre 4, verset 4? Pour commencer.
Je le lis.
Oh, vas-y.
Alors, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Merci. Donc là, on a cette illustration par le Seigneur que on n'est pas seulement un corps, on est aussi un esprit, que les deux vont ensemble. Il n'a pas dit que l'homme ne vivra pas de pain du tout. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il faut qu'on ait cet équilibre entre le physique et le spirituel. Et ne pas négliger l'un au profit de l'autre. Je rappelle ce que le Seigneur dit, enfin, pas le Seigneur, pardon, c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, l'exercice physique est
Utile à peu de choses.
utile à peu de choses. Il n'a pas dit que c'était inutile. Il dit c'est utile, mais à peu de choses en comparaison de des choses qui concernent la vie éternelle. Donc c'est là où il nous faut trouver le bon équilibre entre ce qui est de l'exercice physique, bon et nécessaire, et ce qui va au-delà, finalement. Et de la même manière, quelqu'un qui passerait toute sa journée le nez dans les écritures, mais qui négligerait son corps, c'est pas plus équilibré. On va regarder Jean 15, versets 4 à 5. Oui, après, après. Salut Clément.
Bonjour.
Bonjour.
Jean 15, versets 4 et 5.
C'est-à-dire,
Vas-y.
demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Merci. Et là, on a cette illustration de notre dépendance du Seigneur. On n'est pas conçu pour gérer les pressions sans le Seigneur. Même avec le plus haut niveau d'endurance, d'entraînement, le plus haut niveau spirituel et le plus haut niveau physique, on pourrait se mettre une pression de dingue pour atteindre une bonne endurance physique et en même temps une connaissance spirituelle. Les deux sont de bonnes choses, mais on n'est toujours pas fait pour vivre sans le Seigneur. À aucun moment. On va lire encore deux passages, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. 2 Corinthiens 3, 5.
Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.
Merci. Et chapitre 4, verset 7, si quelqu'un veut lire chapitre 4, verset 7.
Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous.
Merci. Donc, là encore, ça illustre le fait que nous ne sommes par nous-mêmes capables de rien. Et que nous avons besoin du Seigneur. Notre corps reste un vase de terre qui peut se briser. D'ailleurs, quand on arrive au burn-out, quelque chose qui est très à la mode, le burn-out, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est un burn-out?
Quand je ne supporte plus la pression.
On ne supporte plus la pression. À quel niveau on la supporte plus? C'est physique ou c'est mental?
Les deux.
Mental,
physique.
Il y a les
Les
deux.
deux aussi. C'est les deux. Il y a des conséquences après sur
Physique.
les glandes qui peuvent aussi sécréter. Il y a un endommagement aussi des glandes.
Le corps pâtit grandement du stress. Grandement, grandement, grandement du stress. Est-ce que vous savez, est-ce que vous saviez que vous pouvez en une journée épuiser entièrement vos réserves de magnésium? Sur un coup de stress. Hein. Gros coup de stress, les réserves de magnésium sont bouffées. Donne une bonne excuse pour manger du chocolat.
Non,
Pour faire une cure de magnésium, hein, en vrai.
ouais.
Un gros coup de stress peut donc endommager votre sommeil de manière assez durable. Et du coup, si votre sommeil n'est pas réparateur, tout le reste s'en ressent derrière. Et spirituellement, ça va être plus compliqué. Donc, la plupart des gens ne disciplinent pas correctement leur corps. Et il me semble que, de manière générale, on a tendance à sélectionner les domaines dans lesquels on va se discipliner. Plutôt que d'avoir quelque chose d'équilibré, on va avoir tendance à sélectionner, que ce soit une discipline mentale ou physique, hein. Et si on ajoute aux circonstances de la vie, qui sont déjà des pressions, hein, si on ajoute le fait qu'on n'arrive pas à gérer notre propre culpabilité, nos peurs, nos angoisses, parfois le désespoir, ben ces choses-là constituent un poids supplémentaire, hein, par rapport aux circonstances de la vie. Donc, comment est-ce qu'on va gérer ça de manière biblique? La première des choses, ça va être d'éliminer les pressions que Dieu ne nous demande pas de porter. Ça, c'est quelque chose d'important de savoir qu'est-ce qui est de ma responsabilité et qu'est-ce qui n'est pas de ma responsabilité. Parce que si je porte, en plus de mon sac à dos, le sac à dos du copain, le sac à dos de ma femme, le sac à dos de mes enfants, et je ne peux pas, Je suis pas fait pour. Il y a des choses qui sont pas de mon ressort. L'une des premières choses que nous avons à éliminer, c'est dans Hébreux 12:1 qu'on va le lire.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée.
Merci. Donc la première chose à faire, c'est éliminer le péché et les conséquences, les résultats du péché. Alors il y a des conséquences qu'on ne peut pas éliminer. C'est-à-dire si j'ai commis un crime et que je dois en payer les conséquences, payer une amende, aller en prison, ça je ne peux pas l'éliminer. Par contre, ce que je peux éliminer avec l'aide du Seigneur, c'est la culpabilité qui est associée. Parce que la culpabilité, c'est un poids, mais alors, terrible. C'est un poids terrible. Et le Seigneur nous dit de rejeter tout fardeau et le péché. Donc le fardeau, c'est ce que nous portons et que finalement nous n'avons pas apporté. Et si vous regardez dans 1 Jean 1, 9. Quelqu'un veut le lire?
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Merci.
Donc,
Il nous faut maintenir une discipline mentale, être alerte lorsque la culpabilité se présente, et savoir si c'est une culpabilité justifiée, est-ce que j'ai vraiment péché, si j'ai vraiment péché, alors que je confesse mon péché, et la parole de Dieu me dit que Dieu me pardonne. Donc il faut que je vive dans ce monde finalement que Dieu a créé. Parce que si je vis dans un monde où je garde la culpabilité, finalement, je suis en train de dire, mais non, Dieu ne me pardonne pas. Et vous noterez qu'on ne trouve jamais dans la Bible cette idée qu'on doit se pardonner à soi-même. C'est un concept moderne. Il faut que je me pardonne à moi-même, mais si je suis pardonné à Dieu, si je suis pardonné par Dieu, pardon, de quoi est-ce que j'ai besoin en plus? Qui je suis pour... Finalement, je suis en train de dire que mon pardon est plus grand que celui de Dieu. Si je ne me pardonne pas à moi-même, alors que Dieu m'a pardonné, je suis en train de dire que ce que Dieu a fait est plus petit que ce que moi, je suis capable de faire. C'est important, cette question de gérer la culpabilité, parce que c'est un frein énorme dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils n'osent pas servir parce qu'ils se voient pécheurs, et ils ont raison de se voir pécheurs, ils le sont. Mais une mauvaise gestion de la culpabilité amène à rester dans la défaite. On ne saisit pas la victoire qu'il y a dans le Seigneur. Il m'a pardonné. Il m'a purifié de tous mes péchés passés, présents, à venir. Et je peux servir avec l'esprit libre. Et si je pêche, bien, qu'est-ce que je dois faire? Confesser mon péché, l'abandonner et brandir fermement la parole du Seigneur qui dit que je suis pardonné. C'est pas, il n'est pas question de ce que je ressens. Il n'est pas question de quoi que ce soit d'autre que de confesser et croire ce que Dieu dit sur son pardon. Éphésiens 4, verset 22. On va lire même du verset 20 au verset 24. Éphésiens 4, 20 à 24.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, une justice, dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
Merci. Je veux souligner ici le triple mouvement qu'il y a. On est appelé à se dépouiller. Donc là, c'est ce qui est souligné dans cette étude-là, c'est se dépouiller de ce que Dieu ne nous demande pas de porter. Le péché. L'homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Mais il ne s'agit pas seulement de se dépouiller parce qu'on peut passer toute notre vie à se dépouiller et jamais éprouver de délivrance parce que la vieille nature est toujours là. Toujours en train de produire du mauvais fruit et elle ne produira que du mauvais fruit. Parce qu'elle ne peut pas faire autre chose que ça. Donc il faut se dépouiller de la vieille nature, être renouvelé dans l'intelligence, et ça passe par la parole, comprendre ce que Dieu attend, la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu, et revêtir l'homme nouveau. Donc il faut qu'il y ait ces trois mouvements. J'abandonne ce qui est de l'ancienne vie, je comprends ce que Dieu veut que je fasse, et je me revêts de cet homme nouveau. C'est-à-dire je fais ce que Dieu me demande de faire. Et c'est ça la vie chrétienne, en réalité. C'est comme ça qu'on met à mort le vieil homme. En réalité, il a déjà été mis à mort. Mais nous, on a simplement à le considérer comme mort. Tu n'as rien à dire. C'est pas la vie que Dieu m'appelle à mener. Je ne veux pas t'entendre. Je veux revêtir l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, Dieu, il dit qu'il doit faire ceci. Et Dieu dit qu'il doit faire cela. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions?
Des fois, en fait, pour le faire taire, c'est cet esprit, c'est de parler fort et de parler vraiment comme si c'était quelqu'un qui était en face.
Oui.
Tais-toi, adore ton Dieu maintenant. C'est pas comme ça que tu dois te comporter. Tu es déjà mort et c'est Christ qui vient, en fait. Vraiment, à haute voix.
Oui, ça m'arrive.
Merci. Sois sympa.
Des fois, je me parle avec rudesse. Il la ferme.
C'est ça.
Mais je pense à Paul qui dit, par rapport à, dans un contexte un peu différent, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti.
C'est ça.
Ben, il y a des fois où on, bon, ça suffit là maintenant. Hey, tu vas pas me conduire sur ce chemin-là,
C'est ça.
on y va. Donc, éliminer le péché et les résultats du péché, notamment la culpabilité, puisqu'on ne peut pas changer forcément les conséquences de nos péchés. Deuxième chose à faire, éliminer les responsabilités que nous avons prises en dehors de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si nous nous sommes chargés d'un certain nombre de fardeaux, sans l'assentiment de Dieu, sans que Dieu nous ait conduits à le faire, bien c'est que nous portons un poids que Dieu n'a pas mis sur nos épaules. Et parfois, on peut être motivé pour de bonnes choses, pour de mauvaises raisons. Je m'explique. On peut désirer faire des choses bonnes, mais parce qu'en réalité, ce qui nous anime, c'est une convoitise pécheresse à l'intérieur. Quelque chose qui se voit pas mal dans les milieux évangéliques, c'est je veux servir le Seigneur. Donc je veux un service dans l'Église. En réalité, ce que je veux, c'est pas servir le Seigneur. C'est ce que le service du Seigneur va me rapporter de regards admiratifs, de félicitations, d'affection fraternelle. Et si je n'ai pas ces choses-là, en réalité, bah, je vais commencer à ne pas être content. Et de cette manière-là, je peux me charger d'un fardeau, c'est-à-dire le service, pour de mauvaises raisons. C'est terrible, hein? Vous voyez la perversité de notre cœur qui nous pousse et qui peut même nous tromper en disant, regarde, tu fais de bonnes choses quand même. Ouais, mais si je le fais pour de mauvaises raisons, au jour du jugement, du tribunal de Christ, ça ne tiendra pas à l'épreuve du feu.
C'est pour ça qu'il faut connaître et quand on disait qu'il fallait puiser dans la parole. Parce que la parole nous dit bien quand on donne ou on fait quelque chose, on ne doit rien attendre en retour. Et si l'on connaissait bien assez, ça doit vous rappeler à chaque fois.
Absolument.
Ouais.
Et vous remarquerez que ça nécessite de s'examiner soi-même.
Oui.
Ça nécessite de comprendre pourquoi je fais ça. Quelles sont mes motivations? Qu'est-ce que je cherche? Je connais un frère dans le Seigneur qui a été accusé au moment où il entrait dans un nouveau ministère de le faire uniquement par orgueil. Alors ça l'a interpellé. Ça l'a vraiment interpellé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tout abandonné. Il s'est examiné devant le Seigneur. Est-ce que je fais ça par orgueil? Seigneur, si tu l'enlèves, est-ce qu'il me manque quelque chose? Et il a pu répondre à cette accusation. Non, c'est une fausse accusation. Je ne le fais pas par orgueil. Je le fais parce que j'ai une conviction d'être appelé par le Seigneur. Alors parfois, ça peut être un peu difficile parce que il peut y avoir les deux. Il peut y avoir l'appel du Seigneur et on peut en retirer de la fierté, de l'orgueil. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
Si on le sait intérieurement,
Mmh.
le confesser.
Absolument. Confesser. Il faut juger notre propre péché. Nous juger nous-mêmes. C'est-à-dire, oui, j'ai de l'orgueil. Seigneur, c'est vrai, j'ai de l'orgueil. Je ne veux pas vivre de manière orgueilleuse. Tu m'as accordé un don. Tu m'as conduit dans un ministère. Quel que soit le bienfait que j'ai récolté de ta part, Seigneur, j'en conçois de l'orgueil. Je ne veux pas en concevoir de l'orgueil. Donne-moi d'agir de manière humble.
Un exemple il n'y a pas longtemps, c'est Yves qui était à la présidence. Et j'ai vraiment aimé, apprécié vraiment son attitude quand il avait senti qu'il avait le stress. Et il a dit ouvertement. Et ça, je me suis dit, waouh, il a senti quelque chose. Il s'est dit, je suis faible. Et il a fait appel à Dieu. Donc, à un moment donné, si on sent quelque chose de faiblesse, on essaie un peu d'étouffer ça pour montrer aux gens qu'on est capable. C'est mentir soi-même. Et là, il n'a pas voulu se mentir. Franchement, pour moi, c'était vraiment un exemple, quelque chose de bien qu'il a dû faire. Ça m'a marqué.
Merci pour le partage. Et il nous faut aussi donc éliminer ce que Dieu ne veut pas que nous portions et renforcer les poutres, renforcer l'armature. Et ça va passer par un corps qui est discipliné, qui reçoit le repos dont il a besoin, un régime alimentaire correct et qui va faire un exercice régulier. Vous noterez que la parole de Dieu ne met pas sur nous de pression autre que ces choses-là qui sont finalement du bon sens. Elle ne nous dit pas mange 1800 calories par jour. Elle ne va pas chiffrer ce genre de choses. C'est un équilibre à trouver, une attitude de cœur qui va nous amener à accorder à nos corps le repos suffisant, un régime alimentaire sain et de l'exercice régulier. Et par rapport à l'aspect spirituel, une dépendance de Dieu et un esprit qui est renouvelé, hein, comme on a lu dans Éphésiens 4, être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. C'est avoir un contact continu finalement avec la parole de Dieu. C'est-à-dire apprendre à penser au travers de la parole de Dieu. Donc, la conclusion que je pourrais tirer de cette étude-là, c'est que si nous voulons une âme tranquille, il nous faut passer davantage de temps à contempler le Seigneur et ne pas négliger l'aspect physique dans notre corps. Si vous allez chez le médecin, vous dites, docteur, je suis stressé. Que va faire le médecin?
Il va essayer de voir d'où vient le stress. Il va essayer de diagnostiquer d'où vient le stress.
Ça, c'est si c'est un bon médecin.
Oui.
Un bon médecin qui a le temps. Donc, si tu as de la chance, il faudra que tu me donnes ton nom. Si c'est la première réponse qui te vient en tête, c'est que tu as certainement un bon médecin.
Efficacement.
Or, dans de rares cas, il va prescrire un arrêt, mais sinon, il va prescrire des pilules, des médicaments. Alors, selon le type de médecin, il va prescrire de l'homéopathie. Oh, c'était conseillé. Oui, c'est des pilules de sucre. Hein. Voilà, ça déboule. Hein. C'est auquel on a chanté hein, une incantation. Et puis, il peut prescrire des choses un petit peu plus conséquentes, qui vont même altérer notre conscience. Mais si c'est un bon médecin, effectivement, il devrait chercher à savoir d'où vient le stress, s'il prend le temps. Plutôt que de dire si c'est un bon ou un mauvais médecin, s'il a le temps, s'il prend le temps, il devrait chercher à savoir d'où vient le stress et faire ce travail. Mais j'ai l'impression que la plupart des médecins ne font pas cette démarche parce qu'ils sont dans une logique où tout est physique. Notre état intérieur dans le monde, hein, est le résultat d'échanges chimiques. On se rend compte de ça, hein. Le monde nous présente notre état intérieur comme le résultat d'un équilibre ou d'un déséquilibre chimique. Ce qui nous déculpabilise de tout. C'est pas ma faute. Non, je suis pas en colère, j'ai un déséquilibre chimique. Alors, parfois, ça arrive. Il y a des problèmes hormonaux, des problèmes de thyroïde, par exemple, qui peuvent induire une dépression sévère dans certains cas. Donc, il ne faut pas faire des jugements à l'emporte-pièce non plus. Des excès d'hormones masculines, ça peut vous rendre un petit peu agressif quand même, hein? Donc, il faut quand même être conscient de ces choses-là, mais la parole de Dieu est très équilibrée, contrairement à la vision du monde. La parole de Dieu, elle dit, il faut prendre soin du corps et il faut prendre soin de l'esprit. Le monde dit, il faut prendre soin du corps. Et si tu prends soin du corps, alors le reste ira bien. Ceux qui sont de ma génération ou qui avaient la télé à ce moment-là, vous vous souvenez peut-être d'une pub pour un yaourt où on voyait une femme toute nue. J'en ai déjà parlé dans une prédication. On voyait une femme toute nue, alors elle était cachée aux endroits sensibles évidemment, hein, mais presque cachée. Mais c'était une pub pour un yaourt. Hein. Et l'idée, c'était si vous mangez ce yaourt, vous allez prendre soin de votre corps et tout ira bien dans votre vie. Vous aurez une vie merveilleuse parce que vous aurez mangé un yaourt. C'est la même idée hein, qu'on retrouve dans la bonne partie de la médecine actuelle, où tout est équilibre chimique. Si vous prenez soin de votre corps, alors tout le reste va bien se passer. Si vous faites du sport, vous serez immortel. En fait, hein. Alors, il faut manger des aliments anti-cancer aussi, parce que c'est important. Mais, voilà, et ça néglige complètement l'âme. Donc, prenons garde à ça. C'est assez important. Avez-vous des questions par rapport à ça? Ou des remarques?
Oui, certains vont aussi vers les psychologues. Mais
Oui.
on conseillerait d'aller voir les psychologues parce que...
Oui, le recours au psychologue, et ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui est censé apporter un psychologue? Qu'est-ce qu'on en attend?
Écoute, déjà qu'il
Qu'il
écoute,
nous
ouais.
écoute. Ouais.
Qu'il comprenne, qu'il puisse donner des conseils.
Et sur quoi vont être fondées sa vision de l'homme et ses conseils? Qu'est-ce qu'il croit un psychologue?
Au nous intérieur.
Au nous,
Nous, au
c'est-à-dire.
moi intérieur. Il va nous diriger sur ce que tu es et t'identifier et de personnaliser ce que tu es, mais que tu n'as pas mis des mots dessus. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et il va pas te trouver de solution. C'est toi qui dois trouver tes propres solutions en t'identifiant toi-même et en disant, voilà, je vis ça, donc je devrais être ça, mais je pense plutôt que je suis ça et. Il nous amène à un je suis en fait qui est pas bon.
En réalité, ça dépend un peu des écoles de psychologie, parce que des écoles de psychologie, il y en a des dizaines, donc des dizaines de théories différentes à la base, qui parfois se contredisent les unes des autres, mais le fondement sur lequel repose la psychologie, les fondements, c'est d'une part l'athéisme. Il n'y a pas de Dieu.
Ça, c'est clair.
S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a donc pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de sauveur. Donc, partant de là, un psychologue peut-il apporter une vraie solution au problème de l'âme? Pas du tout. Pourquoi? Parce que son point de départ est faussé.
L'humain a besoin de psychologie, d'ailleurs.
Excellente remarque. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de psychologie? Parce que la psychologie, ça vient de deux mots grecs, psyché l'âme, et logia, l'étude ou la science. Donc l'étude de l'âme. Est-ce que vous avez déjà étudié une âme?
Non.
Ça a quelle couleur? Quelle forme? Quel poids? Quels sont les changements que l'âme éprouve de manière visible? Est-il possible donc de faire une science de l'âme? D'avoir une démarche scientifique à propos de l'âme?
C'est tout sauf matérialiste.
C'est impossible! Il est impossible d'avoir une démarche véritablement scientifique à propos de l'âme. Pourquoi? Parce que la science exige de partir d'une hypothèse. À partir de cette hypothèse, je vais me poser des questions, je vais faire des expériences, et ces expériences, je vais en conclure quelque chose. Mais pour en conclure quelque chose, il faut que je puisse récolter quelque chose de visible, de mesurable, de quantifiable. Est-ce que vous pouvez quantifier l'amour? Est-ce que vous pouvez quantifier la foi? Le désespoir, quantifier les pensées, c'est une chose absolument impossible. Donc il faut reconnaître que la psychologie, soit elle porte mal son nom, soit elle fait fausse route, soit les deux. En tout cas, ce n'est pas une démarche scientifique.
Et ça n'aide pas vraiment le chrétien. Parce qu'à un moment où j'étais, bon, je venais de traverser l'un des problèmes les plus graves que j'ai traversé, et j'étais encore convalescent, on m'a dit, ouais, il faut voir un psychologue parce que ça va aider. Et bon, comme c'était le médecin qui insistait, je suis allé à la première, je suis allé voir une psychologue. Et bon, elle m'a dit tous les problèmes que j'ai eus, je lui ai raconté. Après, elle prenait des notes. Après, elle a dit, bon, il faut rentrer, il faut être fort, il faut, donc, elle dit qu'il faut être fort. Donc, je suis venu pour qu'elle me, elle me dit qu'il faut être fort. Je suis rentré le premier jour, j'ai dit, mais, j'ai appelé un peu la famille, j'ai dit, mais, les psychologues, ça m'aide. Disons, c'est comme si je suis allé lui dire mes problèmes et elle me renvoie dos à dos. C'est comme si je suis rentré. Je suis plus découragé qu'au moment de partir.
Voilà tout ce qui te manque, le bon courage.
Et j'ai dit, bon, peut-être que c'était la première fois et je me suis trompé. Donc, je continuais à prier. Je suis allé la deuxième fois et c'était pratiquement, en fait, elle t'écoute, mais elle te dit rien qui te permet, parce que quand tu lis la parole, quand tu pries, tu as la conviction sur ce que Dieu te met à cœur. Et quand tu pars, tu es content. Tu quittes, tu es content. Tu es satisfait, tu vois que Dieu a agi et tu vois les choses que Dieu fait. Mais après, la deuxième fois, bon. J'ai dit au médecin que bon, je veux voir, je veux un peu alterner, je veux un peu espacer les rendez-vous avec le psychologue. Bon, c'était une façon polie de dire que je n'irai plus, mais je ne savais pas comment lui dire directement que je n'irai plus parce qu'il continuait les opérations. Donc, je ne voulais pas de conflit. Et donc, depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais allé. Et je pense que l'aide que j'ai eu, parce que c'était des trucs de 2 heures, c'est-à-dire tu arrives, tu pars et tu es fatigué. À un moment, tu t'arrêtes, c'était ma toute première fois. Et tu sais plus ce que tu vas dire. Et non, tu n'as pas autre chose. Elle te dit, elle part, elle revient pour que tu réfléchisses sur ce que tu peux encore dire. Et donc, finalement, c'était pour moi une épreuve parce que je n'étais pas encore bien physiquement. Mais il fallait que j'ai des histoires à raconter à un couple. Et je trouvais que c'est vraiment la psychologie. Et après, j'ai lu, bon, après ça, je suis allé lire un peu sur les théories. Je pense la psychologie, c'est pour le chrétien, ça n'apporte rien. Ça n'apporte vraiment rien.
Disons, il faut reconnaître à la psychologie ce qu'elle a fait de scientifique. Il y a des démarches qui ont été vraiment scientifiques, la psychologie, c'est-à-dire l'observation des comportements.
Sur le plan commercial, sur le plan commercial, la psychologie a quelque chose à apporter. Par exemple, quand tu vas étudier un peu
un groupe de personnes à qui tu veux
Exactement.
proposer le service.
Exactement. Ça,
Ça aide.
parce que ça se base sur
Oui.
quelque chose qui est observable,
Voilà,
mesurable.
c'est ça.
Et là, on est tout à fait d'accord.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut reconnaître la science là où elle se trouve. On n'est pas contre la science, mais on est contre la prétendue science, qui se prétend science et qui ne l'est pas. Donc, nous, on veut la vérité, juste la vérité. Donc, là où il y a de la vérité, nous, on est d'accord. Et quand ça se base sur des choses observables, mesurables, donc la psychologie, avec un P majuscule, hein, je veux dire, le domaine de la psychologie a fait des recherches poussées et scientifiques pour pouvoir catégoriser les comportements. Il y a eu des recherches faites également sur un certain nombre de substances chimiques qui vont induire ou inhiber des comportements. C'est vrai aussi. C'est-à-dire que si vous prenez du Valium, vous allez avoir deux effets, un effet musculaire, un relâchement musculaire, et vous allez avoir un effet anxiolytique. Faire les angoisses, voilà. Mais ça ne soigne pas les angoisses. Parce que si vous arrêtez le Valium, les angoisses, elles reviennent. Donc ça prouve bien que le problème n'a pas été résolu à la base. On a mis dessus un couvercle, mais bon, voilà. Là, le couvercle fait son effet, on ne le voit plus. Très bien. Mais si vous arrêtez,
Addictif.
et en plus, il y a ces problèmes d'addiction derrière.
Voilà.
Donc.
Excuse-moi. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On disait qu'il y avait des études qui ont été faites en disant que quand tu reçois quelque chose, eh ben, t'as un taux voilà, de molécules qui va
Qui va
augmenter
augmenter.
très vite et qui va changer très vite. Alors par contre, quand tu donnes quelque chose, eh ben, ça dure plus longtemps. Mais
Et
tu vas
c'est
être
stable.
plus heureux
À
à
donner.
donner qu'à recevoir. Et c'était le point de vue scientifique.
Oui, après,
C'est
voilà,
une réalité
s'il
scientifique,
y a des choses
pas
qui
une
sont
réalité.
mesurables, effectivement, mesurables, visibles, reproductibles, de telle sorte qu'on puisse en dégager une loi, c'est ça, hein, la science. Deux et deux, ça fait toujours quatre. Quand on est dans le bon ensemble de nombres. Voilà. Mais ça fait toujours quatre, et vous pourrez prendre toujours deux choses et deux autres choses. Si vous les additionnez, elles font toujours quatre. C'est scientifique, c'est mathématique, on ne peut rien y faire. Voilà. Nous, on n'est pas contre ça, au contraire. Ah, c'est de la vérité. Ce que je voudrais voir juste. Pour commencer, puis après on passera un temps dans la prière. C'est vous montrer ce petit schéma. Alors, je suis pas sûr qu'il se voit bien, s'il va bien se voir ici. Vous voyez pas, vous arrivez pas à lire au bout, c'est
Ah
normal.
non, pas du
Mais vous
tout.
pouvez voir de quelle manière il
Mais
est
j'ai
fait.
pas les
Il
verbes
y
encore.
a un, deux, trois, quatre, cinq cases.
Cinq.
Okay. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit dans ces cases. Parce qu'en fait, si on veut comprendre la solution, il faut comprendre comment on fonctionne à l'intérieur. On a vu la fois précédente que la plus grosse cause de stress, d'anxiété, c'est l'incrédulité. Le gros problème, la grosse racine à la base, c'est l'incrédulité. Je ne crois pas ce que la Bible dit au sujet de Dieu, à mon sujet, au sujet du monde dans lequel je vis. Donc j'ai un gros problème. Et cette incrédulité m'amène à penser, pas forcément de manière consciente ou avec ces mots-là, mais finalement, Dieu n'est pas suffisant pour moi. Dieu n'en fait pas assez. Dieu devrait faire davantage. J'ai besoin de plus. Voilà ce que finalement nous pensons quand on ne vit pas dans le monde de Dieu. Qu'est-ce que ça provoque? Quand vous pensez que Dieu n'en fait pas assez, quel va être votre état d'esprit?
Colère, colère,
Mécontentement, hein?
absolu,
Insatisfaction,
tristesse.
la tristesse et tout un tas d'événements, de sentiments, pardon, négatifs. Dépréciatif au sujet de Dieu, au sujet de votre propre vie. Ma vie, de toute façon, elle est nulle. Dieu n'en fait pas assez pour moi. Derrière, il y a aussi l'idée, je mérite plus quand même. Hein? Ah, je mérite mieux.
Ouais, c'est l'humain qui reprend le dessus, quoi.
Exactement. Et ce mécontentement donc, va provoquer de la colère, de l'anxiété. La colère, c'est Je suis contrarié parce que je n'ai pas ce que je désire. Je mérite mieux. Et puis l'anxiété, c'est plus, mais est-ce que je vais obtenir ce dont j'ai besoin? J'ai besoin. Et si je ne l'obtiens pas, qu'est-ce qui va se passer? Les deux vont amener où? Au désespoir, finalement. À la tristesse et au désespoir. Je n'aurai jamais ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce qu'il y a à la base? L'incrédulité. Donc, si on est face à un problème dans notre propre vie de dépression, de désespoir, de tristesse durable, pour monter, est-ce qu'il y a de l'anxiété? Je n'obtiens pas quelque chose dont je pense avoir besoin, ou je suis contrarié parce que je n'ai pas ce que je désire. Est-ce que je pense finalement que Dieu n'en fait pas assez pour moi? Il faut s'attaquer au bon problème. Le problème n'est pas l'anxiété, le problème n'est pas la colère, le problème n'est même pas la dépression. Le problème, c'est l'incrédulité. Si je déracine l'incrédulité, ben le fruit que porte l'incrédulité va disparaître mécaniquement. Par contre, si je suis toujours en train de d'essayer de couper les rejetons, si j'essaye toujours d'enlever le mécontentement, l'anxiété, la colère, la racine, elle reste toujours là et elle va continuer à produire des fruits. Des feuilles et des fruits. J'ai un problème comme ça à la maison. J'ai un des piliers de mon portail au bord duquel un Altéa, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un Altéa, c'est un hibiscus de jardin, quoi, a décidé de pousser. Okay? Il s'est logé dans une fissure entre le pilier et la dalle de béton, avec une racine qui visiblement va très profond. J'en suis réduit à simplement devoir le couper régulièrement au ras du sol. Mais il repousse tout le temps, parce que je n'ai pas attaqué la racine. Et c'est vigoureux, ces bestioles-là, hein, ces plantes-là. C'est très vigoureux. Je me suis dit, bon, une fois, ok, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, il va comprendre que je lui laisserai jamais le droit. Non! Non! Pas de souci.
Il y a la sève.
Il y a la racine. La racine vitale, elle est là. Et tant que la racine sera là.
Y a la sève. La sève qui est dans la
racine. Ils
n'ont
n'ont
pas les petites racines non plus.
Oui, ça va profond, ces trucs-là. Ce n'est même pas des racines étendues, c'est un forêt, quoi. Et dans ma vie, c'est la même chose. Je peux vous dire, à titre personnel, j'ai lutté contre la dépression longtemps. Donc, bon, j'ai pris des médicaments pendant un temps, des anxiolytiques et des antidépresseurs. Pendant un temps, je surnageais. À un moment, c'était tellement bien dosé que je rigolais tout seul. Hein. C'était vraiment sans aucune raison. Et puis, bah, quand j'ai arrêté, je me suis rendu compte, bon, j'ai arrêté pour différentes raisons, mais je me suis dit, bah, c'est le Seigneur qui va m'aider, parce qu'entre-temps, je me suis converti. C'est le Seigneur qui va m'aider, avec ou sans médicaments. Bah, si le Seigneur veut que je sois triste, je serai triste. Après tout, je ferai sa volonté. Mais au moins, je ne serai pas sous camisole, quoi. Et finalement, d'autres choses ont émergé après ça. Il n'y avait plus la dépression, mais il y avait l'anxiété, il y avait de la colère. Et j'ai essayé de lutter contre l'anxiété. J'ai essayé de lutter contre la colère. Mais la Bible dit de ne pas me mettre en colère. Alors, Baptiste, tu vas arrêter de te mettre en colère. Hein? Marche pas. Pas marché. Mais par contre, quand j'ai commencé à remonter à la racine et à me rendre compte que le vrai problème, c'est l'incrédulité. Et que j'ai commencé à taper là-dedans. Dans l'incrédulité, et à dire, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi j'ai mis Dieu au-dedans de moi? Mais espère en Dieu! Voilà ce que la Bible dit au sujet du. Et en fait, tu ne crois pas à ce que la Bible dit. Voilà, ça a commencé vraiment à faire de vrais changements dans ma vie. J'ai toujours des moments d'angoisse, j'ai toujours des moments de colère, j'ai toujours des moments où je suis, je ne peux pas dire dépressif, mais des fois déprimé, abattu, découragé. Mais il suffit que je revienne à la racine et qu'à la racine, je mette les bonnes choses. C'est-à-dire la foi, parole de Dieu. Et bah, d'un seul coup, le reste s'en va, petit à petit. Hein. Comme un nettoyage au Karcher, tout qui s'en va. Que vous en pensez?
Moi, j'ai dans 1 Corinthiens chapitre 13, par rapport à Dieu, mais aussi aux autres, j'ai l'amour, je crois tout.
Oui.
Et je me suis rendu compte que je suis pas
Oui.
bon pour ça. Il y a des trucs que j'arrive pas à faire parce que j'y crois pas. J'ai pas confiance en l'autre et j'ai pas confiance en Dieu.
Oui.
C'est horrible. Mais en fait, j'ai toujours cette, comment dire, ce bar que j'arrive pas à faire. C'est horrible.
Le corps risque de nous toujours tirer vers ce côté-là. Hein. Ça,
Ah
c'est
oui, de toute façon,
la
la
nature.
vieille nature
Elle va toujours nous
ne
tirer
nous
vers
amène
ce
jamais
côté.
dans le bon, dans
C'est ça.
la bonne direction. Je me
C'est
souviens, ça
ça.
me fait penser à ce que tu dis à une personne que j'ai aidée il y a quelques années. Enfin, que j'ai aidée, je suis pas sûr d'avoir réussi à l'aider, mais j'ai essayé en tout cas. Une personne qui avait des troubles alimentaires, n'arrivait pas à se nourrir de certains aliments. Et je lui ai lu ce passage, dit, mais tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ne vous privez de rien, mangez de tout ce qui se vend au marché, etc. Et sa réflexion, ça a été très révélateur. Et oui, c'est écrit, mais je n'arrive pas à le croire. Et au final, le problème derrière ce trouble alimentaire, qui était médicalement, je pense qu'on aurait diagnostiqué de l'anorexie, c'est quoi? Le problème, c'est l'incrédulité. Et si on tape à la racine de l'incrédulité, ben, le fruit disparaît, le mauvais fruit, qui est l'anorexie, disparaît. Alors là, je simplifie grandement les choses parce que pour traiter bibliquement ce qu'on décrit comme de l'anorexie, il faudrait, ça demande un peu plus de travail que simplement citer un verset de Timothée. C'est plus complexe que ça, plus long, et c'est un combat qui mérite d'être mené. Mais vous voyez, où, finalement, le problème, souvent, c'est qu'on vit dans un monde où Dieu n'existe pas et où on ne croit pas sa parole. Merci pour ta remarque, Marc.
Après, si malheureusement, dans certaines situations, on est obligé de passer par les psychologues ou psychiatres, ce qui est mon cas. Moi, j'en retiens une chose. Comme tu disais, Baptiste, pas jeter le bébé et l'eau du bain avec. Mais moi, dans mon cas personnel, la psychologie, elle n'a jamais réussi à m'atteindre, sinon mon moi, avec un grand M. Mon orgueil, c'est l'estime de soi, enfin de moi que j'avais. Mais ça n'a jamais eu d'effet, mes rendez-vous psychologiques n'ont jamais eu aucun effet, comment dire, positif, sinon une parole agréable. Une parole réconfortante, mais ça a toujours été impersonnel. Et ça n'a jamais eu le poids que je pouvais rencontrer avec un frère ou une sœur. Une parole réconfortante du Seigneur, ni le. Un peu, quand on lit sa parole, c'est-à-dire quand à un moment donné, vous arrivez dans des situations où vous n'êtes plus important. En fait, vous n'avez tellement plus d'espoir que la seule branche à laquelle vous vous raccrochez, c'est le Seigneur. Et quand vous avez compris ça, ben, enfin, moi, dans mon cas, j'ai compris que. Mon orgueil, elle servait à rien. Tout ce qui pouvait m'arriver, surtout que moi, on est dû passer en procès, mon agresseur a gagné son procès, mais finalement, ce n'est pas important. Parce que quand on a Christ, on a tout. Et en fait, les choses, elles restent, elles passent. Et le bonheur éternel, il se commence ici, mais il se prolonge dans le ciel. Et quand on n'a plus l'estime de soi, c'est-à-dire quand on est. On n'a que le regard sur Christ. En fait, si j'ai Christ, j'ai tout. Et ce qui marque, en fait, avec beaucoup de recul, alors moi, ça a duré pas mal, au moins 3 ans, le recul, c'est les médicaments prescrits et la tarification à la fin. Ça se finit bon, c'est temps. Bon, par grâce, les médicaments, je ne les ai jamais pris, puisque, bon, après, je pense que j'avais un professionnel qui avait aussi un peu compris la situation dans laquelle j'étais et que son aide à lui, elle n'était que d'ordre juridique en fait. Mais c'est vrai que quand les chrétiens passent par des moments très compliqués, c'est sûr que la psychologie a pu aider, mais à une certaine mesure. Elle ne pourra jamais aider le chrétien si lui ne. Si le psychologue n'est pas déjà chrétien, et s'il n'a pas un œil différent de ce que lui enseigne la psychologie, et le chrétien ne sera jamais aidé si son regard ne se lève pas vers les montagnes, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Et
La relation avec un frère chrétien, ben, nous, puisqu'on est des frères, ça c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment ce qui va nous aider. Parce qu'en plus, l'intimité d'un frère chrétien, s'il est proche ou pas, nous amènera à regarder ce que le Seigneur dit. Il ne va pas nous donner une solution. Il y a des psychologues qui disent, bon, il n'y a pas de solution. Il y en a qui vont dire, si, si, il y a une solution, faites ceci, allez, c'est bon, un coup de pied dans le derrière, ça va aller. Un chrétien peut nous dire aussi, mais un chrétien qui est rempli de l'amour de Christ, là, vous allez le ressentir. Et c'est-à-dire, le psychologue, il va dire, allez, vous êtes une bonne personne. Moi, depuis 30 ans, je suis sorti, je suis une bonne personne. J'arrive chez moi, je ne suis rien du tout. Un chrétien te dira, il n'y a pas une personne parfaite, mais en tout cas, Jésus t'aime. Et ça, c'est important. Et ça, quand vous avez compris ça, on a compris beaucoup, beaucoup de choses. Donc, si on laisse vraiment le Seigneur nous pénétrer et nous faire sentir que vraiment il nous aime, ben, c'est, on retrouvera, nos craintes, elles vont disparaître. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour bannit la crainte, hein, comme dit la parole. Et puis, c'est vrai qu'on arrive toujours à se penser là. Voilà. Je manque d'amour parce que je me regarde aussi un peu trop et je ne laisse pas le Seigneur prendre toute la place qu'il doit avoir. Donc oui, être chrétien et savoir que nous avons un grand Dieu qui nous aime, c'est ce qui nous arrivera, ce qui nous aidera à traverser toutes les phases de la vie. Un bon sens. Ça, c'est mon expérience personnelle.
C'est le témoignage de la parole.
C'est son travail, en fait. Il peut pas, c'est un travail, donc tu es un quart, il va pas s'initier, il va pas t'accompagner, il va pas prendre sur lui ton histoire parce que il pourrait pas, c'est trop compliqué pour lui, il deviendrait fou, enfin, plus que tout. Il y a vraiment juste un travail
Oui, c'est
à
professionnel.
faire, c'est professionnel. Un chrétien, si tu aides quelqu'un, eh ben, tu vas t'engager, ce que tu vas lui dire, ça va avoir du sens et pour lui, mais
Et pour
aussi
toi,
pour
oui.
toi. Tu vas l'accompagner jusqu'au bout, même si elle est ratée, etc. C'est beaucoup plus, comment dire, personnel, beaucoup plus dur, etc. Et avec l'aide du Seigneur, tu peux le faire. Rien, il n'y a rien
Rien à
à
voir.
voir. Oui.
Relation
Et
d'aide.
c'est ça.
Bah, ce qu'on fait là, c'est de la relation d'aide. C'est purement de la relation d'aide. Vous avez eu un petit aperçu du premier module, là. Je voyais Moïse qui souriait parce qu'il existait.
Non, mais c'est vrai, je dis aussi quelque chose aussi qui est important chez le chrétien, et surtout le chrétien abattu, ce qui nous arrive souvent. Et vous arrivez chargé, vide, la parole n'a. Vous disiez, mais voilà, il n'y a rien qui rentre. Enfin, en tout cas, ça ne descend pas. Parce que ça y est, vous êtes tellement saturé que voilà. Et quand l'esprit se charge vraiment enfin, quand vous confiez tout à l'esprit, c'est formidable. Ce que je disais dimanche dernier à Marc, je dis, écoute, tu m'as fait un bien. Enfin, merci. Franchement, je suis venu, mais le culte pour moi, c'était du début jusqu'à la fin avec la prédication. Je dis, là, on rentre, on est. Voilà. Je pouvais même pas lire la parole, j'ai juste écouté, 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 tout absorbé, absorbé, absorbé. C'est ce que je dis à Marc, franchement, là, ce que tu as dit ce matin, après, ben, tu dis, voilà, ça y est. Voilà, mon dimanche, il est refait.
Ce que je veux aussi ajouter, c'est que si on ne croit pas en Dieu, le stress va demeurer parce que ce n'est que Dieu qui enlève le stress. Et parfois, on est devant une situation, on voit qu'on a un échec. Par exemple, dans ton cas où la personne qui était en contre, qui a gagné son procès. Mais il faut pas, sur le plan avec la vie chrétienne, ce qui est en face de nous, qui est comme une défaite, parfois, c'est de là que sort, c'est généralement de là que sort la vie, que Dieu intervient. Parce que imagine que on aurait gagné de prime abord, soit le procès ou bien gagné contre un collègue ou avec son indifférent. Et je pense que on ne verrait pas vite Dieu C'est-à-dire, quand on voit que tout nous échappe, que nous sommes au bout de nous-mêmes. Par exemple, quand on voit Esther, c'est une histoire que je me rappelle souvent, même quand je travaille, quand j'ai des. Parce que dans la vie professionnelle, il y a toujours des problèmes contractuels. Vous pouvez faire un truc avec quelqu'un, mais le jour où tu lui fais le travail, il te dit non, je voulais aussi que tu me fasses telle chose. Et donc, tu es obligé, tu pries que Dieu te donne que ce que tu lui donnes, qu'il accepte bien que c'était le contrat que vous avez eu au début. C'est souvent un gros problème. Et donc, souvent, tu vois, Esther, elle était dos au mur. Et son père lui dit, bon, ne pense pas que comme tu es la reine, tu seras épargnée. Si on devait tuer tout le monde. Donc, lui-même était au bout. Tout le monde était perdu. La cause était perdue. Et là, on a vu comment Dieu a intervenu. Et ça, vraiment, c'est l'histoire d'Esther, ça me. Régulièrement, quand je suis face à quelque chose, je pense à ça. Je pense même au peuple qui était face à la mer, qui regardait et voyait le pharaon qui arrivait en force. Il se tournait, il regardait, il voyait la mer. Donc, quand tu regardes dans ton cœur, tu dis que dans ce cas-là, mais tu es là comme ça. Donc, et c'est Dieu, vraiment, notre vie au quotidien, c'est un peu, on traverse régulièrement des moments comme ça. Et ce sont des moments où il faut crier que Dieu, parce que c'est notre seule issue. Oui.
Mais face à la mer, en fait, quand Israël est venu là, sur la plage, en fait, il venait d'un corridor. Donc, il n'y avait pas beaucoup de place. Ce n'était pas comme si c'était un désert ou quoi que ce soit. Donc, quand la mer, il n'y a pas de place pour qu'il s'échappe. Et dans Genèse, après que Adam et Ève, ils ont péché, Dieu a dit, bah, c'est avec souffrance, vous allez souffrir, vous allez mourir, etc. Juste après, il dit, c'est Dieu. Je sais pas, Adam, Ève, c'est Dieu qui fit de la vie de plomb pour eux. C'est lui qui l'a fait. Il l'a fait tout de suite. Il n'a pas attendu 50 000 ans et pour que le stress, l'angoisse. C'est génial.
Oui, il pense pas. Je vais arrêter.